Mais il est temps, dans ce cas-là, de donner la parole à la salle. Si vous pouvez avoir la gentillesse de vous nommer, puisque nous enregistrons les débats, c'est le cas.
Oui, Jean Lucas. Je remercie, je n'étais pas au courant de cette réunion, je remercie Olivier Beau de m'avoir signalé la parution de ce bel ouvrage auquel je ne ferai qu'un reproche. Cher M. Dampia, c'est qu'il ne contient aucun index des mots, si bien que nous ne savons pas qu'est-ce que fréquentait Burdeau. C'est parmi les gens qu'il citait. Et je trouve que ça aurait été très intéressant. C'est un guesswork, parce que j'ai rencontré Georges Burdeau pour la première fois en 1960. Je ne peux pas ne pas l'aimer, il faisait partie du jury qui m'a agrégé et il me défendait fortement dans ce jury, en français, et je l'ai revu depuis. Et mon sentiment était qu'il était assez étranger à la démarche, disons-le, épistémologique américaine. John Dewey, dont tout le monde parle actuellement, c'est devenu la grande vedette, qui a écrit avec Arthur Benfrey, l'homme qui a fait le plus gros intérêt au du XXe siècle, Process of Government. J'ai l'impression que ça ne l'intéressait pas beaucoup. Peut-être avez-vous raison, peut-être il n'était pas très intéressé au statut de vérité, aux justifications de ce qu'il disait. Mais je m'aperçois que tout de même, il lisait Von Mises. C'est cité là-dedans. Donc, voir un peu quelles étaient ses sources, celles citées, car il avait des lectures considérables, très grande culture, aurait été intéressant pour un lecteur de le trouver dans un recueil. Je voulais dire, ça m'a permis de parler un peu de ce que je pensais être, qu'est-ce qui pouvait être les sources. Je crois que il y a une note ridicule sur l'approche du comportement en sciences politiques américaines dans une édition de son traité de sciences politiques qui montre qu'il ne comprend rien à la question, qu'il ne comprend rien à l'analyse empirique. Mais s'il ne comprend rien à ça, c'est pas du tout parce que c'est parce qu'il a une autre vision. Comme vous l'avez dit très bien, j'ai été très frappé parce que j'ai lu son traité de sciences politiques. Vous savez, et aussi ses interventions. Je me souviens de l'une d'entre elles disant « Moi, je prends le point de vue du juriste. » Parce que juriste, disait-il, je sais ce que je cherche. Vous avez rappelé. Et ce qu'il cherchait, c'était la partie de la science politique que tendons à éparpiller, que j'appellerais science du gouvernement. Alors évidemment, peut-être que le gouvernement n'est pas seulement, je sais, Olivier Beau, entre autres, ce qui établit les règles, c'est aussi ce qui les transgresse et qui prend des décisions. Mais c'était le point de vue du gouvernement qui l'intéresse. Et c'est à partir de là que tout est construit. En revanche, le point de vue des petites pratiques au sein des gouvernés l'intéressait, mais seulement du point de vue de ce que la décision permet de dire sur le gouvernement. Et je trouve que c'est une grande démarche que, je dirais à la fin, ce que nous avons emprunté à Burdeau sans le savoir, mais je voudrais dire que je récuse absolument l'idée que la science politique est devenue de ce que Sartori appelait la sociologie de la politique. Sauf dans un sens extrêmement banal, que Burdeau aurait accepté de dire que la politique, c'est du social. C'est ce qui construit le social. N'est-ce pas ? Bon, alors, en ce sens, bien sûr. Mais la sociologie de la politique, disant, vous savez, la politique, il faut bien voir que les idées, le gouvernement, les institutions, tout ça, c'est le résultat de propriété sociale, de prédisposition, de trajectoire, de ci et de ça, que l'on a historiquement, et que dans ces conditions, on peut tout expliquer par là, c'est une idée ridicule que plus personne dans son bon sens ne tient ou ne devrait tenir. Je dois dire que quand je prends les dernières éditions de Oxford and Book of Political Science, je trouve deux revues, un intitulé Law and Politics et l'autre Political Institutions. Et je ne trouve aucun volume intitulé Political Sociology. Sauf le volume édité par Tilly, Analyse politique contextuelle, mais qui veut dire autre chose. Qui veut dire que quand on est assisté, c'est-à-dire qu'on prend les règles du jeu du gouvernement, tout ça, il faut quand même savoir dans quel contexte ça se passe. Donc je voudrais vraiment m'élever ici, avec la plus grande vigueur, contre l'idée que la science politique est devenue ce que Sartre aurait appelé la sociologie de la politique, et qu'il distinguait lui d'ailleurs de la sociologie politique. C'est une. Quand j'ai édité en 85, avec Mathilde Lavant, un traité de sciences politiques, je vous dis, chers collègues, il est tout aussi oublié que le traité de Georges Bureau, n'est-ce pas? Mais les nouveaux éditeurs, à l'exception du Chemin, se gardent de le citer. Bon, eh bien, je signale que la théorie politique ne se borne pas à être une théorie sociologique de la politique. Que nous avons tout un volume sur les régimes politiques, avec le développement de Georges Lavaux sur la démocratie, que nous avons des chapitres sur les élections et référendums. Que ceci n'est loin d'être mort, s'est développé dans, évidemment, à partir de l'étude, justement, de ce que sont les pratiques. Sans oublier que les pratiques sont aussi pénétrés par les idées de droit. Il n'y a pas de pratique qui ne soit en relation avec une pensée de la règle juridique. Le droit est une. En ce sens, je dirais que le droit est un fait empirique. Il faut rappeler tout ça, parce qu'il faut rappeler, avant de discuter de l'eau, il faut rappeler la science politique peut revendiquer Georges Bordeaux comme le traité de science politique, pas simplement comme un traité de droit constitutionnel. Ça ne lui a pas rendu service, je vous l'admets, je vous le conseille.
Mais je partage.
Donc, je vous le conseille à chacun, mais c'est quand même. Pour moi, ça se situe dans des grandes traditions qui relèvent de la tradition d'Orléans et de gens comme ça. Peut-être de la ville de Villeneuve, qu'il citait un peu trop. C'est un peu barrasant, en fait, de la ville de Villeneuve. Mais là, c'est quand même quelque chose. Bon, un dernier point, pour passer du traditionnel au moderne, ce qui me frappe dans les textes de Bourdeau, dont certains sont reproduits ici, et dont j'ai entendu certains les prononcer, c'est le fait qu'il dit des choses dans son langage élégant, sans se préoccuper de dire j'ai fait 48 entretiens et 22 machins pour. Enfin, il dit des choses qui sont très à la mode parmi nos nouveaux political scientists. Quand vous prenez le plan comme mythe, ce texte. Entendu, ben mon Dieu, relisez-le. Ce que vous avez là-dedans, c'est la gouvernementalité de Saint-Michel Foucault. Et que le référentiel de politique publique, quand on nous rebat les oreilles depuis 10 ans, ou les approches cognitives, vous avez des remarques là qui prédatent, qui sont avant. Et j'ose dire, on n'a pas fait beaucoup de progrès. Merci. Ça m'a fait plaisir de rendre justice à l'homme qui m'a agrégé à la salle des bustes là-bas.
Vous avez parfaitement raison. Il faut toujours rendre cette dette à l'égard des jurys d'agrégation. Jean-Marie, vous vouliez réagir ?
Oui, en deux mots. D'abord que la science politique ne se réduise pas à la sociologie politique, c'est une très bonne nouvelle. Je vous remercie de l'apporter. En ce qui concerne votre traité de science, enfin, que vous avez dirigé avec Madame Pavic, je le connais très bien, puisque je l'ai lu en entier. Il est vrai qu'il n'a que 4 volumes. Donc, je suis effectivement tout à fait d'accord avec ce que vous disiez sur ce point. Je voudrais simplement. Vous avez parlé des États-Unis, je voudrais faire une distinction qui n'est peut-être pas inutile. C'est que Burdeau avait une connaissance extrêmement abondante du système politique américain. Et sur le système politique américain, il a écrit, à mon avis, parmi les meilleures choses qu'on ait jamais écrites en français sur ce sujet. Et je voudrais en particulier citer le cours qu'il avait fait à Sciences Po, qui était paru à l'époque au cours de droit, qui s'appelle « Les principes fondamentaux de l'État », parce que là aussi, il est plus près du cours que son livre intitulé « L'État », je trouve qu'il est plus riche de substance. C'est un livre tout à fait intéressant. Donc je crois qu'il comprenait bien, qu'il s'intéressait bien au système, ce qui est d'ailleurs tout à fait convergent à ce que vous disiez. En ce qui concerne la science politique américaine, il avait des préventions qui sont bien exprimées d'ailleurs dans plusieurs textes de critique, où il fait la recension de l'IPSET, etc. Et il exprime bien ce qui ne lui plaît pas dans cette démarche, et je crois que ce qu'il dit mérite d'être pris en compte. Ça s'explique d'une part par ce que vous avez dit, c'est-à-dire que sa préoccupation était d'abord celle du pouvoir, mais ça s'explique aussi parce qu'il pensait que certaines manières de comprendre la politique étaient liées au système politique et culturel américain, et que transposer sans précaution en France, ça aboutissait à dire des bêtises. Et je dois dire que je ne suis pas loin de penser qu'à lui sur ce point, aussi peu politiquement correct, soit une telle affirmation.
Merci. Oui, monsieur Burdeau, donc peut-être présentez-vous brièvement.
Je ne peux pas m'exprimer comme juriste, je ne suis pas, je peux m'exprimer comme fils et comme témoin. Donc, je m'associe totalement aux deux propos qui viennent d'être tenus sur la relation de papa avec les autres formes de sorcellerie, etc. J'ai entendu deux vives voix, et c'est vrai que c'était son point de vue. Et bien que n'étant pas juriste, je comprends un petit peu ce qu'il y a derrière. S'agissant de la dénoncité, moi je suis tombé dedans, puisque une de nos activités à la campagne, quand j'avais 7-8 ans, c'était de lire le traité. On avait des petits carrés de papier sur lesquels on devait bien que j'étais vite, je ne parlais pas de maître. Moi j'avais 7 ans, quand on faisait ça, comme sur la famille, c'est des médecines. Et on mettait des petits papiers avec la page, etc. Et pendant que nous faisions ça, comment corriger les défauts des concordances des temps, parce que c'est un peu en dehors de papa, c'est qu'il ne savait pas très bien conjuguer le. Enfin, tout ça faisait que c'était un travail artisanal, il a été un travail très familial. Et ce que je voudrais dire, c'est que je permettrai, parce que je ne suis pas un espoir, je suis aussi un peu, mais je vais insister sur la dimension artisanale du travail que faisait mon père. Il se levait à 5h du matin, il commençait à écrire, et il y avait évidemment des fiches partout. Il bouquinait évidemment énormément de bibliothèques, et il reliait pratiquement un livre par jour, et il faisait tout cela. Et vers 9h, 10h, rassuré d'avoir écrit, il prenait un café, il recommençait, et ensuite il allait dans le jardin faire du jardinage, parce que je crois que sur la couverture d'un cinéma, je crois que c'est un petit peu plus énervé, on le voit en train de jardiner. Donc je vais donner cette note aussi, si ce n'est pas un esprit pur, etc. Et dernière chose, par rapport à ce que j'ai entendu, sur, disons, le côté abstrait, l'absence de référence et de méthodologie, ce qui est extrêmement frappant, je m'associe à ce que dit le professeur Lambert tout à l'heure, c'est vrai qu'il n'y a pas ce souci de suivre les ordinaires de méthodologie. Mais en revanche, et ça j'en ai fait mon drame, et puis en même temps, c'est peut-être ça qui m'a aidé à m'en sortir, un souci de la rigueur incroyable. Cette rigueur qui ne trouvait pas sa source dans le respect méthodologique préconçu, rigueur qui était une sorte de rigueur pure. Et quand je disais quelque chose, je disais, mais tu sais pas où tu vas, c'est là à peu près, on savait qu'on devait se faire. Je ne sais pas d'où venait cette capacité de rigueur qu'il n'avait qu'en lui. Voilà. Merci beaucoup.
Merci beaucoup pour cet éclairage. Mais au fond, quand on disait qu'il n'explicitait pas sa démarche au point de vue méthodologique, ça ne voulait évidemment pas dire qu'il n'avait pas de méthode. Il avait évidemment une méthode qui était notamment conditionnée, je pense, par son immense savoir. Olivier Beau.
Oui, d'abord une remarque de lecture. Moi, quand j'ai lu Burdeau, j'ai eu beaucoup de mal au début à entrer dans traiter ce livre sur l'État. Et il y avait un sentiment d'ennui. Et ce qui m'a en fait contribué à anticiper ce sentiment d'ennui, c'est la lecture assez paradoxale de son autobiographie que j'ai découvert en Allemagne. voit, alors, on a vu tout à l'heure un témoignage très intéressant sur, sur sa vie, mais on voit également comment on vient à l'intellectuel, et surtout, on voit très bien, je pense, un point fondamental qui a été dit déjà avec l'université, c'est Burdeau comme grand lecteur. C'est l'immense intérêt de son traité, c'est qu'on trouve des sources qu'on ne trouve nulle part ailleurs. C'est celui qui a pratiquement tout et qui, de manière très scrupuleuse, cite ses sources tout le temps. Et c'est une sorte de mine de renseignements que tout étudiant en thèse, en banque de seconde, devrait consulter, ne serait-ce que pour cela, même s'il n'adhère pas, évidemment, à toute cette théorie, c'est une vraie théorie, c'est de ce point de vue-là un instrument de travail irremplaçable pour tous les chercheurs, sur le ministère, tous les universitaires ou apprentis universitaires. C'est une mine. En tout cas, moi, c'est beaucoup comme ça que j'ai utilisé Bordeaux. J'en arrive à la question qui a été déjà évoquée par Jean-Lucas, une question fondamentale qui sont les sources. Finalement, il y a peut-être une source cachée chez lui, c'est quand même la doctrine allemande. Et là, je ne suis pas certain qu'il ait toujours cité cette source. Je pense que c'est évidemment Karl Schmitt. Il y a vraiment beaucoup de comparaisons à faire. Karl Schmitt a souvent été pillé, parce que après 45 ans, on pourra le citer, mais je pense que Bruno l'avait lu avant. Et il n'y a pas seulement que Karl Schmitt, je pense à Rudolf Schmidt, il y a beaucoup d'autres grands auteurs allemands de Weimar. Que Georges Bordeaux a pu dire, et je serais intéressé, je ne sais pas si M. Bordeaux renseigner sur il y a des correspondances, s'il y a eu des correspondances avec l'auteur allemand. En Allemagne, il est connu, c'est quelqu'un dans son traité, on trouve dans toutes les bibliothèques, il y a des articles publiés et traduits en allemand. S'il y a un nom de juriste qu'on connaissait les Allemands après la guerre, c'était surtout Bordeaux, pas du tout Jodel, un petit peu du Berger pour se centrer sur le parti politique, mais vraiment l'esprit fort pour les Allemands, c'était Bordeaux. Et j'en arrive à la question. Dont j'ai particulièrement apprécié l'intervention du président. Je vais vous poser une question sur l'idée de droit. Est-ce que vous, parce que vraiment c'est une idée quand même, c'est une idée de droit, c'est une idée, même si on la creuse beaucoup, il me semble que j'ai plus creusé que j'ai eu, on a quand même beaucoup de mal à comprendre ce qu'il veut dire, d'où il tire cette idée. Moi au début je pensais que c'était forcément un peu du Oriou revisité, je pense qu'il y a beaucoup de Oriou aussi.
Oui, oui.
Et je voulais savoir si vous avez des éléments d'information sur finalement. Cette idée de droit et cette source de l'idée de droit.
Écoutez, je suis un peu gêné d'une certaine manière parce que je ne pouvais pas ne pas évoquer l'idée de droit en tant que Bordeaux, mais pour évoquer l'idée de droit, il faut évidemment l'avoir compris. Donc je crois que c'est le point peut-être central qui est le plus difficile, le beaucoup plus à l'aise dans les autres développements qu'il a fait, notamment sur les démocraties. Et en lisant Bordeaux, on voit. Bon, ce qu'il veut dire, c'est qu'il est beaucoup la dialectique fin, moyen, mais c'est un peu comme la théorie de l'institution de Maurice Oriou, on a du mal véritablement à saisir pourquoi ça peut être central et pourquoi il a donné ce nom-là à ce qu'il voulait désigner. Est-ce que, si un autre mot, un autre concept avait été choisi, est-ce que ça n'aurait pas été plus clair? Du coup, je suis handicapé. Et il y a beaucoup de textes qui ont été écrits sur l'idée de droit. Le seul que je connais, c'est l'intervention de Philippe Masselet, la communication qu'il avait faite pour le colloque de Strasbourg. Et je dois dire que qu'en la lisant, j'ai un peu le sentiment que le site, malgré tout le travail qu'il avait fait, il avait du mal. Parce qu'il essaye plus de décrypter sa pensée que de l'expliciter. Il essaye sans doute plus de voir ce que lui, ou ce qu'il serait bien de voir, enfin ce qu'il serait commode de voir pour pouvoir l'expliquer, que ce qu'elle est vraiment. Et je crois que c'est vers l'idée de droit chez Jean-Claude Rostin. C'est un vrai sujet qu'il faudrait essayer de creuser pour que ce soit beaucoup clair.
Merci.
Je peux...
Oui, bien sûr.
Sur l'intervention de Bordeaux. Oui, très, très brièvement deux choses. La première, c'est qu'il citait souvent Karl Schmitt dans son livre. C'est même par lui que j'en ai entendu parler pour la première fois. Et c'était l'époque d'ailleurs où est paru en français le seul texte de Karl Schmitt qui a été disponible, à savoir la notion politique qui était paru chez Calvin Levy, avant qu'un certain nombre d'auteurs, dont un était bien connu, aient développé l'intérêt pour Karl Schmitt. Donc c'est une chose qu'il cite, je ne sais pas s'il y a souvent cité par écrit, mais oralement, il le disait assez souvent. Par écrit,
un peu,
dans l'étape du traité. Oui. Voilà. Et alors. Donc, je pense que la doctrine allemande, effectivement, est une des sources de sa pensée. Il est un homme de l'Est, c'est par là que commence son autobiographie, il est déjà évoqué. Et je pense que ça joue un grand rôle. Mais les sources, d'un point de vue général, sont assez difficiles à identifier chez lui parce qu'il cite tellement d'auteurs, il a tellement lu, il a une bibliothèque, non seulement au sens matériel, mais également au sens intellectuel, tellement étendu que on repère plus difficilement les lignes de force que chez d'autres auteurs. Et en ce qui concerne la notion d'idée de droit, pour dire les choses clairement, c'est pas forcément ce que je préfère dans son œuvre. J'observe d'ailleurs que, parce que je ne suis pas sûr que ça soit toujours très cohérent, mais ça, bon, c'est une chose dont on peut discuter. Je voulais simplement observer, je voulais le dire tout à l'heure, mais je ne l'ai pas fait. Vous remarquerez que dans les articles, il en parle très rarement. C'est un élément architectonique, c'est dans le traité, c'est dans le premier tome du traité, là, il dit tout ce qu'il a à dire parce qu'il a un souci de systématisation. Il n'a pas un souci de méthodologie explicite, mais il a un souci de systématisation, et ça fait partie des bases de son travail. Mais en pratique, quand il analyse des phénomènes concrets, quand il étudie des sujets plus ponctuels, comme c'est le cas dans la plupart de ses articles, finalement, je trouve qu'il y fait étrangement peu référence.
Merci, je pense que c'est une précision importante. Moi, pour ma part, j'avais remarqué que dans la correspondance entre Carl Schmitt et son élève Ernst Forsthoff, après-guerre, qui a été récemment, j'ai cherché des références aux juristes français et il y a une ou deux allusions à Burdeau parce que Forsthoff l'a rencontré dans un colloque international dans les années 60 environ et il écrit à 15-8 j'ai rencontré un professeur français, Georges Burdeau, qui puise beaucoup à votre pensée. Je sens, dit Forsthoff, une proximité. Donc le canal n'était pas direct, bien sûr, mais voilà. Moi j'avais vu des références à Schmitt dans le traité, mais ponctuel comme ça, je n'étais pas sûr qu'il y avait une véritable inspiration. Ça demanderait peut-être des investigations plus poussées. Mais alors peut-être une question qui est jointe à la question d'Olivier Beau à M. Burdeau, c'est outre des correspondances avec des auteurs allemands, est-ce que vous souvenez s'il y a beaucoup de livres d'auteurs allemands, notamment des gens comme Carl Schmitt ou Rudolf Smelt, dans la bibliothèque familiale?
Je
ne
peux pas vous répondre, ce que je sais, c'est pas mal.
Matière pour lancer un doctorant sur cette piste-là, et il y a visiblement quelque chose à exploiter. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole des politistes de la maison, qui ne sont pas très nombreux à vrai dire, c'est un symptôme, hélas, ou bien des juristes, puisque pour Burdeau, les deux font la fête.
Non, simplement parce que à parler de l'Allemagne, mais le sentiment que j'ai eu en ayant traité de sciences politiques de Burdeau, j'ai vraiment eu la perception de l'affiliation avec Karl Popper. D'ailleurs, évidemment, la perception. Du coup, on a vraiment le sentiment d'une injustice en plus dans la société française où Karl Popper est très présent, mais cette filiation-là, de cette école spécifique, de cette rigueur juridique, d'un positivisme qui n'est pas simplement un positivisme méconnu, on a le sentiment que Burdeau tente de prolonger ce que Karl Popper avait voulu faire pour répondre à la tête d'allemand, même si je ne la connais pas suffisamment. Et ils sont traités, c'était une manière de poser les bases d'une doctrine du droit public français, du droit constitutionnel français, avec l'étendue de la rigueur que pouvait avoir la doctrine allemande. Je ne sais pas si c'est comme ça que tout le monde le ressent, mais c'est un petit peu le sentiment de ça, ce que parle le caractère massif architectural.
D'accord, merci. Alors, monsieur Bourgeois.
Je peux toujours confirmer ce qu'il avait dit, puisqu'il se trouve que récemment, je crois que Jean-Marie Roy, c'était avec une belle française, et je me suis présenté, il y a un fils du professeur Bourgeois, le disciple de Karl Popper. Ça me confirme ce que
vous dites. Point, ça va être.
Olivier Beau.
Oui, juste pour rebondir sur cette remarque de Jean, je me demande si. Enfin, je vais essayer de partir du paradoxe suivant, c'est que bon, aussi, par exemple, constitué de la guerre, trois personnes quand même, Georges Burdeau, enfin, d'abord Maurice Duverger, ensuite Georges Daudet, ensuite Georges Burdeau. Il se trouve que sur moi, le plus profond, enfin, c'est ce que vous avez tous dit, moi, le plus profond de moi, le juriste intellectuel théoricien qui a écrit une chose intéressant, c'est Georges Burdeau. Le paradoxe, c'est évidemment qu'il est aujourd'hui, finalement, par nous, quelques-uns, totalement reconnu, pelu, discrédité comme on l'aime. Et je me demande si la raison de ce discrédit tient justement C'est-à-dire un peu comme on dit, finalement, Georges Borrow, il est dépassé parce que c'est un juste naturaliste ou un plutôt juste naturaliste. Et c'est en fait ce reproche-là qui plombe complètement sa réputation chez Joyce. C'est la façon dont il dit, c'est un peu différent. Tout à l'heure, le cas a été très véhément et très éloquent pour défendre l'idée que la science politique, ce n'est pas la sociologie du politique. Il a raison si on prend son cas, mais quand même, dans les jeunes qui dominent le champ, qui dominent la foi, qui dominent l'amour, dans tous les sens, c'est plutôt cette conception-là qui domine. Donc finalement, on comprend bien que les politiques ne sont plus chez Joyce, ça reste quand même un objet de mystère. Je me demande si ce n'est pas ça qui finalement est déterminant dans cette postérité un peu, pour l'instant, un peu négligée.
Personnellement, une première réaction avant de tenir parole à M. Lebel. Bien sûr, il revendique une filiation avec Karel Malberg, simplement leur conception de l'étude de ce que doit être l'étude du droit ou de l'État me semble tellement différente que j'ai du mal, moi, à établir une proximité de pensée. Je vois beaucoup plus avec Oriou, donc de ce point de vue-là, la piste Oriou me semble plus intéressante. Et je vous renvoie à un texte que je n'ai pas eu le temps de relire avant de venir, mais que j'avais lu il y a quelques années, qui est une longue discussion, un compte-rendu de lecture de critique par Roger Bonnard à la RDP de 1943, de son essai qui, à mon avis, est une des clés de la pensée de Burdeau, Le pouvoir politique et l'État, une introduction au droit constitutionnel, qui est extrêmement dense, difficile d'accès, mais Jean-Marie écrivait que c'était au fond le prélude aux deux premiers volumes du traité, je crois. Il faudrait aussi comparer les versions. La discussion par Bonnard est extrêmement sévère, alors, mais elle est substantielle. Il l'estampille, ce duguiste qui est Bonnard, l'estampille Oriou, et là on le voit qu'il lui fait porter le poids de tous les péchés du monde. Ça peut aller dans le sens de mise un peu à l'index pour cette raison.
Alors, si je peux réagir sur ce point, je voulais déjà le dire tout à l'heure, il y a un vrai problème des rapports entre Oriou et Durdeau. Parce que dans le texte abondamment cité de 83, il dit explicitement qu'il est hostile à Dugui, ce qui n'étonne personne, et à Rouge. Et ça m'a toujours, ça me pose un problème, parce que je ne comprends pas exactement, là il y aurait des études à faire, des recherches à mener, je ne comprends pas exactement sur quoi repose son opposition à Oriou. Je comprends très bien qu'on s'oppose à Oriou, vous savez, un certain sens, mais je ne comprends pas en quoi ce qui, chez Burdeau, déclenche cette espèce d'hostilité qu'il exprime clairement, hein, qui n'est pas, édulcoré. Il dit que, carrément, je ne suis ni de Bordeaux ni de Toulouse, je récuse les deux. Et encore une fois, dans un cas, on comprend très bien pourquoi, dans l'autre, on ne comprend pas. Là, je crois qu'il y a vraiment quelque chose qui serait à chercher, parce que ça a certainement des raisons, ce n'est pas un caprice, ce n'est pas parce qu'il n'aime pas le cassoulet de Toulousain. Il y a quelque chose qu'il faudrait creuser parce que je ne sais pas exactement et je pense que ça serait une piste intéressante pour comprendre beaucoup de choses relativement à la pensée de Georges Bernard.
Je crois que le mystère reste entier. Alors le professeur Lebel, puis le professeur Parent.
Juste un mot, ce que je me demandais, c'est au cours des discussions, il y a un courant de pensée qui serait évoqué et qui est intéressant par rapport à Jean Burdeau. Et en citant les trois noms de constitutionnalistes français, je dis oui, mais il n'y a pas le quatrième. Quatrième, c'est le diable. Quatrième, c'est Charles Esselman. Quatrième, c'est la doctrine kelsénienne. Vis-à-vis duquel, je crois, il a été assez proche au début. Ou en tout cas, après, il s'est affronté radicalement contre. Je crois que là, il y a quand même un aspect dans l'histoire des idées, dans l'histoire de la doctrine constitutionnelle qui serait important à relever et à étudier.
D'autant plus que dans le texte de 83, il dit explicitement, alors qu'il ne savait pas ce qu'il allait faire, qu'il était perdu d'un point de vue intellectuel, qu'il ne savait pas, comme disait Kant, comment s'orienter dans la pensée, ce qui a été le déclic pour lui, c'est la lecture de Kettler. Il le dit il le dit explicitement. Et ensuite, effectivement, il s'en écarte pour des raisons là qu'il faudrait creuser, qui ne sont aussi pas très claires. Hein. Il a un moment kelsénien, si on peut dire. Et ensuite, il s'en écarte. Et c'est très intéressant parce que ça prouve que ça va dans le sens de ce qu'on peut penser de lui. C'est-à-dire qu'il a toujours cherché une armature théorique. Il a chercher une construction théorique qui maintienne l'ensemble, qui en assure la cohérence et la solidité. Et il a cru à un moment le trouver dans l'œuvre de Kelsen. En tout cas, c'est comme ça qu'il commence à élaborer sa théorie constitutionnelle.
Très bien. Denis Barranger.
J'ai beaucoup d'admiration pour Malraux. Je pense que c'est vraiment l'esprit le plus puissant de sa génération. Et quand on le lit, ça apparaît pratiquement tout de suite. Il y a une puissance intellectuelle pure qui est, à mon avis, commune. Et ça pose, supposé qu'on veuille partager ce point de vue, j'ai l'impression que c'était celui de la personne qui en parlait, ça pose la question qui a aussi été déjà soulevée du fait que ça n'a pas eu de postérité, que ça n'a pas. Il y a deux choses du point de vue là que j'aimerais souligner sur le fait que j'aimerais avoir le sentiment des intervenants. La première qui a été dite en petits éléments et que je voudrais spécifier comme ça, c'est disons que c'est un homme aux adhésions successives. Vous avez dit qu'il n'y avait pas de méthodologie, on pourrait dire aussi qu'il en avait plusieurs et finalement il est allé d'une série de tentatives méthodologiques vers ce que vous avez dit, c'est-à-dire ça. Après, il avait toute la pureté de ses propres conceptions de méthode, mais enfin, il était énergiquement kelsénien dans sa thèse, au point même d'en critiquer la thèse sur le pouvoir constituant contient des critiques respectueuses, mais assez énergiques contre Kallenberg. Après la guerre, dans les années 50, c'est l'article classique sur la notion de constitution, qui ne semble presque pas être de la même plume politico-intellectuelle que les articles des années 60 ou 70. Et de la même manière, Armel a évoqué le principe de droit constitutionnel publié pendant la guerre. Il y a une certaine tendance à se rallier, je ne sais pas si on peut dire au pouvoir en place, mais à la figure du pouvoir en place. L'article sur le pouvoir d'État de 1959, c'est quand même un beau lapsus. Ça se termine, ça commence par la théorie constitutionnelle et ça se termine par un argument à la personne du général. À ça que ça se réduit. Derrière ces adhésions successives ou ces méthodologies qui ont beaucoup évolué, est-ce qu'on ne doit pas deviner un profond scepticisme? Et j'irais même, parce que vous voyez, le scepticisme, c'est la marque de fabrique de la République française d'après les grands maîtres, de la Troisième République. Chez Jodel, il y a un sceptique de tout premier ordre. Voilà, il y a tout ça, ces gens-là ont tout vu. Et tout est passé à la scie. Croire à quoi que ce soit. Et chez Durkheim, ça transparaît, je trouve, très fortement. C'est-à-dire, derrière le scepticisme, il y a pratiquement une grande indifférence. Les adhésions du moment sont de bonne importance. Il n'y a pas une conviction très marquée sur grand-chose. La deuxième chose que je voudrais signaler ou suggérer, c'est que, et là encore, je ramasse à ma manière des choses qui ont été très bien dites. Est-ce qu'on ne peut pas interpréter ce qu'a fait Durdeau comme une tentative d'opérer la conversion du droit constitutionnel en sciences politiques sans perte? Est-ce que c'est pas ça qu'il fait? C'est-à-dire, c'est un traité de sciences politiques, on pourrait dire, c'est du droit constitutionnel en tant qu'il peut devenir une science politique pour se perpétuer ou pour s'améliorer ou se compléter. Et je trouve que ça se voit notamment au fait que, et les discussions parlent des choses que dans le cas, on a dit, tiennent à quelque chose chez Durdeau, qui est que son équipement intellectuel, tout un équipement intellectuel, quel que soit le mot qu'on emploie, de politiste, voilà, il a un équipement intellectuel de juriste de l'entre-deux-guerres extrêmement brillant. Il y a peu de choses qui sont extraordinaires chez Durdeau que ces articles APD de 1939 sur la loi, même la thèse est un truc absolument éblouissant. Mais c'est, voilà, il y a la formation intellectuelle qui est la sienne, qui est extrêmement bonne, de post-classique. Public français de la Troisième République. Et la gêne que nous avons avec ces concepts, à mon avis, vient de là. C'est-à-dire qu'il parle de la science politique en inventant des concepts avec une sorte de machine à fabriquer des concepts qui est celle d'un juriste de droit public de l'entre-deux-guerres. Et ça, je suis sensible à ce qu'a dit Bruno Dojon sur le fait que ça permet que c'est daté, que ça permet de dater. C'est ça, je trouve ça très vrai. Et ça se voit notamment au fait que c'est opaque. Démocratie gouvernée, démocratie gouvernante, idée de droit, on le lit. Il ne nous dit pas en quoi ça consiste, et on se dit, c'est comme ça. effectivement, c'est, il y a la tentation de dire que ça a été un échec, que ça a été un chemin de bois, comme on dit en allemand, mais c'était probablement, là encore, la preuve de sa supériorité de vue. Effectivement, c'est ce qu'il fallait faire. Tout le reste procède d'une manière ou d'une autre, d'une certaine propension à l'opportunisme, voire à l'occupation. C'est-à-dire tout autre. C'est quand même, c'est à la fois, je dis que c'était l'auteur peut-être le plus sceptique ou le plus indifférent aux choses foncières, mais en même temps, intellectuellement, je trouve que il a quand même pris des directions qui conservent leur validité.
Merci pour ces remarques. Je suis assez proche d'y souscrire, et notamment sur ce scepticisme et cette distance vis-à-vis de la politique m'avait beaucoup surpris lorsque j'avais lu l'article autobiographique. Je pense en tout cas que Burdeau, c'est le dernier à vouloir entreprendre un gros effort de construire une pensée nouvelle, alors que Karel Malberg sort de la scène, que du Guillaume quittait un petit peu avant, et il me semble que ça a été le dernier à... Même Maurice Duverger, c'est encore autre chose sur l'entreprise intellectuelle qui a été la sienne. Alors, on disait tout à l'heure que Burdeau est le plus oublié des trois. En fait, je crains que Duverger soit encore plus honni par les juristes d'une manière générale et les politistes dans une large mesure. Un politiste de la jeune école m'avait dit « Mais Duverger, c'est le seul que les Américains lisent encore », ce qui était une manière de nuancer le l'hostilité des politistes d'aujourd'hui à son égard, mais je ne suis pas sûr que ça suffise à nous sauver. Jean-Marie, bien sûr.
Oui, sur Duverger, il y aurait beaucoup de choses à dire aussi, mais oui. On va prendre un problème un par un. Simplement, puisqu'on a cité le nom de Maurice Duverger, rappeler une chose, c'est qu'il a fait quelque chose qui ressemble à du Burdeau, sauf qu'il ne l'a pas fait avec les mêmes mots. Il a publié chez Thémis, au pub de la collection Thémis, un ouvrage de sciences politiques et un ouvrage de droit constitutionnel. Bon, il a juxtaposé les deux et il n'a pas discuté sur la question de savoir quel rapport il y avait entre les deux. Bon. Mais bon, il allait de soi qu'il pouvait tomber des deux côtés, hein, et finalement il est plutôt tombé du côté de la science politique, mais là aussi c'est pour des raisons d'opportunisme au sens large et parce que c'était l'air du temps. Il y a eu un air du temps et puis il y a eu un air du temps contraire, parce que comme on disait au début, une génération fait le contraire de ce que faisait la génération précédente. Donc Burdeau a essayé de théoriser ce passage, cette évolution, cette capture, enfin, bon, beaucoup d'expressions seraient possibles et il faudrait les trier entre elles. Duverger ne l'a pas théorisé, mais il l'a pratiqué. Alors, il y a un mot dans ce qu'a dit Denis Barranger qui me paraît très juste, c'est le mot de post-classique. Ça, je trouve que ça rend très bien compte. Pas de néo-classique. Post-classique. Et effectivement, ça correspond à ce qu'il y a de un petit peu, qui pour nous est un petit peu entre deux mondes. Transition, il y a du nouveau et de l'ancien dans l'œuvre de Burdeau. Son absence de méthode explicite dont je parlais tout à l'heure appartient à l'ancien. Il y a beaucoup de choses qui appartiennent au nouveau. Donc effectivement, ça n'est plus la génération des grands auteurs d'entre-deux-guerres, mais il y a quelque chose de ce qu'il disait qui vient jusqu'à nous à travers lui, et en ça c'est certainement un maillon tout à fait essentiel. Quant à son scepticisme, je crois qu'il faut distinguer entre le scepticisme à l'égard de la politique, et là il a explicité de façon très, très nette, notamment à la fin de son traité où il explique ça par un apologue sur le vigneron qui goûte le vin et qu'il recrache, parce qu'évidemment il ne peut pas avaler tout le vin qu'il goûte, et quelqu'un lui demande si ça n'est pas pénible de toujours boire du vin et de ne jamais avaler, et le type lui répond « j'aime pas le vin ». Et ça, c'est génial comme manière de dire que il n'aimait pas la politique, il réfléchissait sur la politique, mais il n'aimait pas la politique, il y a des gens comme ça. J'en connais d'autres, moi par exemple. Bon. Donc il était fasciné par la politique, mais il n'aimait pas la politique. Alors, est-ce qu'il avait en revanche un scepticisme à l'égard des théories constitutionnelles, ça je ne sais pas, c'est moins péremptoire sur ce point, mais je voudrais en profiter pour signaler quand même l'ampleur de notre notre ignorance. Il y a énormément de choses que nous ne savons pas sur lui, parce qu'il n'y a eu aucun travail universitaire, ni d'un point de vue biographique, ni d'un point de vue intellectuel et doctrinal, qui a été fait sur lui. Et donc, nous avons des impressions qui peuvent être divergentes, parce que nous n'avons pas tous lu les mêmes choses. Il y a certains ouvrages que je n'ai pas lus, il y en a d'autres que personne ne présente ici, n'ont pas lu aussi, mais que j'ai lu. Bon. Donc, on a une vision qui est un peu éclatée, et une vision véritablement synthétique qui supposerait un travail de recherche considérable n'existe pas. Donc, ça nous handicape dans les jugements que nous portons sur lui aussi.
Olivier Beau, venir à
deux mots pour Louis-Victor Charlemagne, qui trouve l'occasion de remercier encore une fois Charlemagne de tout ce qu'il a fait pour cette collection de l'entrevoir. C'est un excellent travail. Et pour Eisenman, ce n'est pas que j'ai vraiment oublié, c'est que je ne considère pas vraiment comme un constitutionniste. Pour moi, c'est plutôt un administrativiste, théoricien du droit et un administrativiste. Son œuvre, le constitutionnisme, ne me paraît pas, par rapport aux trois auteurs que j'ai cités, non pas qu'elles ne soient pas intéressantes, mais quand même. C'était un point remarque. Deuxième remarque, sur ce que dit Jean-Marie Drancan, et sur une lecture, c'est intéressant, vient de relire le passage de son autobiographie sur Duguy et Auru, qui n'est rien de style à Auru. Il dit simplement qu'à l'époque où passait l'agrégation, il y a, dit-il, deux individus se partageaient l'Olympe des juristes de droit public interne, Duguy et Auru. Celui-ci ne faisait aucune référence à l'auteur de la contribution intervenue dans l'État, c'est lui, puis après, par contre, sur Duguy, il a très fort.
Oui, mais il dit aussi, pardon, il dit aussi que, un peu plus loin, qu'il n'appartient à aucune des écoles, qu'il n'est ni du côté de Bordeaux, ni du côté de Toulouse, qui le handicape lourdement, être du côté de Strasbourg et en plus de Kelsenia, c'est évidemment un inconvénient. Donc il dit quand même très clairement qu'il ne s'affilie pas à l'école.
Alors peut-être à ce moment-là, il était encore trop marqué par Carré de Malberg. Et puis, il peut y avoir plus tard une coquetterie, c'est-à-dire s'il veut être son propre moment à lui de reconstruction, de nouvelle énergie de la doctrine française, il n'a peut-être pas envie de dire « je ne fais que continuer l'œuvre de Duruy ». Alors, sur le fond, c'est plus sur le fond, il faudrait confronter...
C'est très possible, mais il faudrait creuser le problème, je l'ai dit tout à l'heure, il faudrait creuser la question, mais moi, comme ça, intuitivement, je ne mets pas du tout Burdeau et Duruy dans le même sac. Je vois bien ce qu'ils ont en commun, qui est, disons, sociologique. Mais, en revanche, sur le plan de la pensée, du fonctionnement intellectuel profond, je ne trouve pas du tout qu'il fonctionne de la même manière.
Ça ne dérange pas ?
Non, juste deux points. Un, d'une impression personnelle, j'aimerais que François Burdeau confirme non. Et pour moi, dans les dernières années où j'ai lu Georges Burdeau, nous correspondions un peu par la petite chose. En Algérie, plus tard, bon, c'était, d'accord, le scepticisme, oui, certainement, le vigneron, mais c'était plutôt, avec le temps, une sorte de désenchantement qui dominait, n'est-ce pas ? C'est-à-dire le Burdeau dynamique, conquérant, que j'avais connu dans 1960, se transformait en c'est une adresse à l'effet tout bête de l'âge, de la génération, enfin de la génération, du fait que la génération est passée, quand on arrive à l'âge que j'ai, vous savez, on le sent, où était-ce quelque chose de plus profond, qui vient plus loin, je ne sais pas. Et ça m'amène juste à ma deuxième observation sur, vous dites, l'absence de grande pensée juridique constitutionnelle, vous l'arrêtez très tôt, vous dites. Après même pour certains, après Carré de Malberg. Bon. Je voudrais hasarder, non pas une explication, mais juste une remarque, mais étroitement contextualiste. À l'époque de Georges Burdeau, y compris quand il vieillissait, les professeurs à la faculté de droit de Paris étaient peu nombreux, ceux de la théorie du droit public relativement moins encore. Il n'était pas remarquablement connu dans les médias, qui ne se préoccupaient pas d'eux, mais ils existaient dans le grand milieu culturel. Quand l'Encyclopédie française faisait un volume sur l'État, c'était peu
politique vers le haut. Bon, autrement dit, il y a à ce moment-là ce qu'on pourrait appeler des figures centrales qui le sont dans l'académie, mais qui le sont aussi, je dirais, dans l'académie des sciences morales et politiques. Je ne pense pas qu'il y en ait des membres. Mais surtout dans toutes ces grandes institutions qui fabriquent de la grande culture. Eh bien, je crois que c'est ça qui est en train de disparaître. Je crois que c'est ce genre de figure que, évidemment, le petit sociologue à la mode appelle la multipositionnalité. La sociologie du French. Ça disparaît. Ça disparaît et vous avez un éparpillement de gens. Vous ne savez plus si qu'est-ce qui fait qu'une pensée et qu'on peut être considérée comme culturellement importante. Mais certes, il reste des critiques. La revue. Ailleurs, à qui se fier, mon Dieu? Nous avons, en Grande-Bretagne, nous avons quand même la peintre Aristote. Aux États-Unis, nous avons la New York Review of Books et quelques autres choses. Et puis, il y a en France, alors nous nous fions au monde des livres, grand Dieu. Et ça, j'ai l'impression que c'est quelque chose, parce que du coup, ça fait beaucoup de bien. Je suis sûr, on pourrait travailler, Olivier Bourne est un exemple. Pratique en quelque sorte l'auto-self, self-enforce, n'est-ce pas? Mais l'absence de cette position que j'appellerais la grande figure académique est autant de désincitation à produire quelque chose qui soit novateur. Voilà mon point de vue qui devient évidemment, avec le temps, lui-même désenchanté.
Je vous remercie beaucoup, ça me paraît assez juste et je disais en commençant que la disparition des références était un peu préoccupante, il y avait un grand tintamarre. Dernier mot et ce sera le dernier si Bruno...
Très bref, c'était tout simplement pour réagir d'abord à ce que disait le professeur Barranger, puisque je viens de dire on avait le sentiment de Bruno qui date également une certaine catégorie universitaire, une universitaire qui pouvait produire sans être fliquée par l'administration comme essayant de tromper. Urdo, c'est ça aussi, c'est ça. Urdo, c'est le contraire de l'aéro. Urdo, c'est... Il y a cette dimension.
Oh oui, ça, c'est... C'est le temps où il y avait des libertés universitaires.
C'est le temps où il y avait des libertés universitaires. Et c'est bien parce qu'il nous reste une preuve matérielle, concrète, tangible, plus que d'autres. Et sur ce qu'a dit le professeur Barranger, ça va effectivement très suggestif, les additions successives. Et en même temps, on a l'impression que c'est pas l'homme des renouveaux. C'est pour ça que de son adhésion à Kelsen, il reste quelque chose tout du long, qu'il juxtapose plus qu'il renie, d'où, effectivement, l'idée d'un traité qui ne diminue jamais en volume, qui poursuit une réflexion sans jamais se renier, et garde ce qu'il peut y avoir de meilleur dans l'ensemble des positions, mais son option juridique, je pense qu'il la tient justement à sa première fidélité qui est Kelsen, et il faut lire dans son testament politique. J'ose l'appeler comme ça, la défense qu'il fait des études juridiques lorsqu'elles étaient menacées, qu'il était directeur de l'IPAC et qu'il défendait le droit en expliquant pourquoi le droit devait rester central dans la faculté de droit.
Oui, merci beaucoup. Effectivement, c'est frappant comme à la fin, mais peut-être à la fin, il a un peu reconsidéré sa propre position en voyant l'évolution disciplinaire. L'on voit que la discussion et les échanges ne sont pas taris et qu'il y a encore matière à creuser et beaucoup de mystères à lever surtout. Donc je crois que ça va nous stimuler pour organiser ce colloque un peu plus important sur la pensée de Georges Burdeau. Je ne peux pas encore vous donner de calendrier, nous allons en débattre bientôt, mais c'est un rendez-vous que je vous donne, et notamment aux amis de l'Institut Villet, mais aussi au cercle plus largement de ceux qui s'intéressent à la pensée juridique et la pensée constitutionnelle politique. Je voudrais remercier très chaleureusement tous les participants à cette table ronde, et y compris les intervenants de la salle. Nous avons bien occupé notre temps, et maintenant il ne faudrait pas abuser, il est toujours bien de quitter la table avec un petite fin encore et non pas rassasiée véritablement. Ça ouvre sur la poursuite de ses réflexions. Je crois que c'est la dernière manifestation publique de l'Institut Michel Villet pour cette année, qui a été fructueuse. Est-ce que le directeur veut, bon, il ne veut pas dire un mot, eh bien, je le fais à sa place tout de même, donc, pour vous remercier de votre fidélité. Et je vous donne rendez-vous peut-être pour des versions écrites de cet entretien, ou alors une version podcast dans la revue News Politicum, c'est très possible, au moins que nous ayons une version écrite, mais peut-être simplement la version de l'échange qui a été tout à fait riche et stimulant. Et je vous remercie d'être resté fidèlement jusqu'à cette heure avancée de l'après-midi. Merci.